XXe siècle, et notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale. Après donc la Pologne, la France, nous allons voir ce qui s'est passé en Yougoslavie. La Yougoslavie qui a été conquise en 1941 par Hitler et qui a été partagée entre les Allemands et les Italiens. En ce sens que les Italiens se sont emparés de la Slovénie et de la Dalmatie, tandis que les Allemands ont conservé le reste. La Voïvodine a été cédée à la Hongrie et le Kosovo déjà à l'Albanie. Voyez-vous, il y a des choses étonnantes et comment l'histoire se répète à des dizaines d'années de distance. Et la Croatie, la Dalmatie et la Bosnie sont devenus des États indépendants sous la direction, en ce qui concerne la Croatie notamment, d'un certain Ante Pavelić, qui était un pro-nazi absolument convaincu et anti-serbe, qui plus est. La Croatie était le bastion catholique, et jusqu'à aujourd'hui l'est encore, n'est-ce pas, au sein de la Fédération yougoslave. Et c'est la raison pour laquelle le pape actuel a milité, n'est-ce pas, à fond pour le démembrement de la Yougoslavie, donc au moment des événements tragiques que l'on connaît. Il s'agissait de renouer donc avec l'ancienne politique et de faire de la Croatie un État indépendant catholique. Et Ante Pavelić, notamment, s'est mis à se lancer dans une croisade anti-serbe qui était la reprise tout simplement de l'ancienne politique des Habsbourg, donc des empereurs d'Autriche, qui étant catholiques, étaient anti-serbes, les Serbes étant soutenus, bien entendu, par la Russie. Ante Pavelić avait à sa disposition ce qu'on appelait les Oustachis, qui étaient donc des espèces de soudards de bas étage, n'est-ce pas, qui exécutaient les basses besognes. Et les catholiques avaient donc l'autorisation de Pie XII d'utiliser la force pour pouvoir reconstruire le catholicisme et catholiciser notamment les Serbes. Catholiciser les Serbes, ça consistait à en éliminer un bon nombre. Et c'est ainsi que, en juin 41, peu après donc la victoire des nazis en Yougoslavie, 100 000 Serbes ont été éliminés en 4 jours. Ante Pavelić s'est mis à utiliser donc les méthodes nazies d'épuration ethnique, avant la lettre, si l'on veut, et il s'en est pris aux Serbes, mais également aux Juifs, bien entendu. Et on raconte que finalement, ce qu'on a vu ces temps derniers existait déjà à cette époque-là. Ces Oustachis lui livraient des paniers remplis d'yeux des Serbes qui avaient été donc assassinés, n'est-ce pas ? Et comme on voit aujourd'hui aussi, ça s'est reproduit dans les mêmes conditions. Ante Pavelić travaillait pour se faire en étroite collaboration avec l'évêque de Croatie, l'évêque de Belgrade. Et beaucoup d'églises orthodoxes ont été confisquées et sont devenues donc des églises catholiques. Serbes et juifs étaient brûlés vifs, sans autre forme de procès. Et il est tout à fait curieux de constater qu'après la guerre, un des pires bouchers de l'Europe nazie, Ante Pavelić, est finalement échappé à la justice et ne se soit pas retrouvé, comme par hasard, à Nuremberg ou dans aucun des tribunaux qui, ensuite, dans les différents pays, se sont aussi efforcés de dénazifier. Donc, on peut penser que, là aussi, le Vatican poursuivait sa politique traditionnelle, d'ailleurs qu'il n'a pas cessé de poursuivre depuis, qui consistait à catholiciser les Serbes, et s'appuyant pour cela sur la coalition entre catholiques et musulmans. Autre point noir, et parmi les pires de la politique catholique pendant cette période-là, c'est la Shoah, le génocide. Lorsque, en juin 1941, Hitler a attaqué la Russie, le Vatican a vu d'un très très bon œil cette croisade anti-bolchevique. D'abord parce qu'effectivement, le Vatican considérait que le bolchevisme athée était un danger beaucoup plus grand pour la foi catholique et pour la foi de l'Europe en général que ne l'était le nazisme. Et deuxièmement, parce qu'il espérait que dans les fourgons de l'armée allemande victorieuse, les missionnaires catholiques pourraient reprendre leur croisade et leur évangélisation de la Russie orthodoxe, selon d'ailleurs la fameuse prophétie de Fatima, les trois fameux secrets de Fatima. Il avait pour cela l'appui d'Hitler, qui avait autorisé effectivement les missionnaires catholiques à intervenir sur les talons des armées allemandes victorieuses dans tous les territoires de l'Est qui auraient été conquis. À noter aussi que lorsque Pétain a institué en France les lois raciales, puisque finalement on a eu droit à cette période 1941, donc, à une mise en œuvre, y compris dans la zone libre, dite libre du moins, n'est-ce pas, des lois de Nuremberg, des lois nazies, anti-juives, n'est-ce pas. Et il a pris au préalable soin de consulter le Vatican, qui a donné son feu vert. Ça aussi, c'est une chose, évidemment, qu'on ne dit pas beaucoup, mais qui est un fait maintenant absolument prouvé. C'est confirmé notamment par le grand historien juif contemporain Léon Poliakov. On sait que c'est à cette période-là que le pasteur Bögner, président de la Fédération protestante de France, est intervenu auprès des autorités d'occupation allemande pour faire cesser les déportations de juifs, et il a pris contact avec l'épiscopat catholique pour qu'une démarche commune soit faite en ce sens. On sait aussi, bien sûr, surtout à la Fédération protestante, que le pasteur Bögner a été éconduit par l'épiscopat catholique, qui n'a pas voulu intervenir dans cette affaire, de sorte que la Fédération protestante est intervenue seule en faveur des juifs. Lorsque la solution finale, un an plus tard, a été donc adoptée par le gouvernement nazi, c'est-à-dire l'extermination des juifs, la solution finale étant un euphémisme pour désigner l'extermination des juifs, le Vatican, jusqu'à aujourd'hui, prétend que Pie XII n'était pas au courant. On peut en douter, pour plusieurs raisons. La première, c'est que le Vatican a le meilleur service de renseignement du monde. Et il est absolument invraisemblable de penser que, alors que les pays alliés, l'Angleterre, les États-Unis étaient au courant de ce qui se passait, le Vatican ne l'était pas. On peut penser donc que le Vatican a laissé faire, et c'est ce que lui est reproché aujourd'hui par les Juifs en particulier. Il faut dire qu'en cela, le Vatican n'a pas eu d'attitude différente de celle des puissances alliées. On sait aujourd'hui que les puissances alliées étaient tout à fait au courant du génocide, et que des représentants juifs des États-Unis notamment ont demandé à Roosevelt et à Churchill de bombarder les voies qui permettaient au chemin de fer d'acheminer donc vers les camps de la mort les déportés, et les alliés ont refusé. Alors aujourd'hui, on prétend que ça aurait ralenti l'effort de guerre allié. Bon, on a demandé aussi que soient bombardés les camps de concentration, les fours crématoires, etc. Bon, c'est du roman feuilleton, car bombarder ces installations aurait demandé quelques jours, en tout et pour tout, n'est-ce pas, ça aurait pas été un affaiblissement bien important de l'effort de guerre. Bon, il est beaucoup plus logique de penser que les Alliés se désintéressaient totalement du sort des Juifs, n'est-ce pas, et n'ont pas cru devoir lever le petit doigt pour les soutenir, pour les secourir. Même chose en ce qui concerne le Vatican, qui lui peut-être, alors là c'est tout le problème qui est posé, n'est-ce pas, n'était peut-être pas mécontent de voir éliminer les Juifs. Bon, c'est toute la discussion actuelle. Vous savez que ces archives sont frappées de secret, que les historiens juifs réclament à cor et à cri le droit d'avoir accès aux archives du Vatican de cette période, et que le Vatican se refuse obstinément donc à ouvrir ces archives-là. Bon, du côté juif, on dit, si on se refuse à nous donner accès à ces archives, qu'est-ce que le Vatican a à cacher ? En 1966, un jeune Allemand a publié une pièce de théâtre qui a fait beaucoup de bruit à cette époque-là, qui se nommait le Vicaire. Le Vicaire, c'est évidemment Pie XII. Et cette pièce de théâtre était basée sur un fait réel. C'est que pendant la Shoah, la période de la Shoah, le Vatican avait infiltré des agents secrets, donc des agents secrets du Vatican, dans la SS. Et notamment un prélat qui s'était engagé dans la SS, qui ne disait pas qu'il était prêtre, et qui donc est devenu SS, comme les autres SS, mais qui renseignait le Vatican. Bon, c'est un fait historique qui a été absolument certain. Et ce pseudo-SS, ou ce vrai SS, tout en étant agent secret du Vatican, a réussi donc à se faire embaucher dans les camps de la mort, Auschwitz, etc. Et donc, il a fait passer au Vatican des rapports très précis sur ce qui se passait dans les camps de la mort, suppliant donc le pape d'intervenir, suppliant le pape, le vicaire, donc, de dénoncer ces choses et se déclarant prêt à envoyer donc d'autres renseignements plus précis si on les lui demandait. Et le pape a ignoré constamment tous les rapports qui venaient de cet agent secret qui, selon la pièce du vicaire, n'est pas désespéré, en fin de compte, est entré lui-même volontairement dans une des chambres à gaz lorsqu'il y a eu un gazage de juifs et donc s'est suicidé de cette manière-là, voyant que ces avertissements n'étaient pas pris en compte, n'est-ce pas? Cette pièce a été un véritable boom, n'est-ce pas, dans le monde entier. Le Vatican a nié énergiquement, n'est-ce pas? C'était après la mort de Pie XII. Pie XII était mort depuis longtemps, mais Là, on a commencé à ce moment-là. Cette pièce a été le détonateur qui a amené. On était en plein Concile de Vatican II d'ailleurs, ou juste après. Et cette pièce de théâtre, c'était peut-être plus tôt d'ailleurs, ça devait être en 1964, donc en plein Concile du Vatican. Et là, ça a été le début d'une espèce d'introspection catholique, n'est-ce pas? Quel était effectivement le rôle que l'Église catholique avait joué pendant la guerre en ce qui concernait la Shoah? Alors évidemment, le Vatican a prouvé, a apporté des pièces à conviction, montrant combien de prêtres, combien de religieux, combien de couvents avaient caché des juifs pendant la guerre, etc., notamment les juifs de Rome, bon, etc., ce qui est un fait. Et du côté juif, on a rétorqué aussi qu'après la guerre, les mêmes couvents plutôt catholiques avaient caché les dignitaires nazis en fuite, dont Eichmann et Bormann, qui n'ont jamais été retrouvés en ce qui le concerne, Mengele et d'autres, n'est-ce pas, et qui ont profité de filières d'évasion qui leur ont permis de rejoindre, grâce au réseau mis en place par l'Église catholique, soit l'Amérique du Sud, soit les pays arabes tels la Syrie, l'Égypte et autres lieux où ils ont trouvé un accueil chaleureux. Bon, bref, une polémique qui n'est pas encore éteinte a éclaté à cette période-là, n'est-ce pas, sur le rôle du catholicisme en ce qui concernait la Shoah. Et cette affaire, donc, a été un point très, très négatif pour, non seulement, on pourrait dire, l'Église catholique, mais également pour le christianisme tout entier. Parce que, finalement, pour le grand public, l'affaire a été entendue. Et l'affaire était claire, d'ailleurs, les éléments militent dans cette affaire, dans ce sens-là, d'une manière très probante, même si on ne peut pas être sûr à 100% aussi longtemps que les archives ne sont pas ouvertes. Enfin, il y a de nombreux indices qui vont dans ce sens-là. Et il y a eu donc un silence coupable de Pie XII pendant la guerre. Il y a eu une collaboration des hiérarchies locales avec l'occupant nazi. Il y a eu une politique pro-nazie du Vatican d'une manière absolument sûre. Alors le Vatican s'est défendu en disant que si le pape avait parlé, ça aurait fait plus de mal que de bien, parce que à ce moment-là, Hitler aurait pu réagir brutalement contre le Vatican et enfermer le pape, l'empêcher de parler, etc., etc. Bon, peut-être que oui, peut-être que non. Certains, même au milieu catholique, on dit le pape, malgré tout, aurait dû parler sans s'inquiéter des conséquences pour lui-même. C'est après tout le rôle des hommes de Dieu de faire de cette manière-là. Enfin bon, soit la polémique donc a fait rage et continue à faire rage aujourd'hui, des années après justement la mort de Pie XII. Pie XII était un pape pro-allemand, ça c'est une chose absolument certaine, et il est certain que son rôle dans la Shoah, le rôle de l'Église catholique, disons, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce rôle que nous examinons maintenant, n'est-ce pas, est une tâche indélébile dans l'histoire de l'Église catholique. Et une tâche tellement indélébile que même Vatican II n'a pas pu l'effacer. Et une des raisons pour lesquelles beaucoup de catholiques ont quitté l'Église catholique vient aussi de là. Ça, c'est des travaux modernes, Madame Littmann notamment, qui a démontré ça d'une manière absolument probante, n'est-ce pas, que l'Occident est malade de la Shoah à partir des années 60, quand on a commencé à voir l'étendue du drame et l'étendue justement de l'implication du catholicisme dans ce drame que fut la Deuxième Guerre mondiale et tout ça, eh bien, des multitudes se sont détournées de l'Église catholique et du christianisme en général. Le christianisme a été déconsidéré et il y a eu au sein, n'est-ce pas, du christianisme, du catholicisme, une véritable mauvaise conscience, une culpabilité qu'il porte maintenant, qui se manifeste dans des actions de repentance diverses, à Yad Vashem et autres lieux, mais qui se perpétue, parce que là, on se rend bien compte qu'il y a un porte-à-faux formidable. Le devoir de mémoire, dont on nous rabat les oreilles constamment, ce qui est une bonne chose d'ailleurs, mais enfin, qui montre que là, il y a une mauvaise conscience, ce qui n'empêche pas d'ailleurs l'Église catholique actuelle de collaborer maintenant avec les États musulmans pour préparer une nouvelle Shoah en kéfié, comme si de rien n'était. Mais enfin, c'est surtout au niveau du peuple qu'il y a cette mauvaise conscience, n'est-ce pas, qui rend un très très mauvais service aujourd'hui au christianisme d'une manière générale, parce que si le christianisme a pu être complice, n'est-ce pas, d'une pareille horreur, alors, eh bien, on reprend un petit peu ce que Jésus disait, on reconnaît l'arbre à ses fruits et des multitudes se sont détournées dans les années 60-70, justement, quand ces choses ont commencé à être connues, c'est l'époque de l'effondrement du christianisme en Occident, n'est-ce pas, et qui coïncide justement avec cette révélation de la Shoah et du rôle de l'Église catholique, mais aussi des Églises orthodoxes jusqu'à un certain point, dans cette affaire lamentable, sans parler évidemment des églises protestantes allemandes et autres, qui elles aussi ont collaboré à fond évidemment avec le catholicisme. Dans cette affaire, les jésuites ont joué aussi un rôle très important. Himmler, par exemple, était d'origine catholique, et Pie XII estimait que en s'emparant justement des nations catholiques, un grand empire catholique allait pouvoir naître en Europe. Et l'idée d'une Europe unie, sous la bannière catholique, a fait son chemin, par l'intermédiaire de l'Allemagne, donc a fait son chemin dans les milieux catholiques, du Vatican notamment, n'est-ce pas ? Et alors, on espérait que sur cette Europe catholique s'étendrait l'influence des jésuites. Les jésuites ont beaucoup milité pour cette affaire et continuent à le faire, n'est-ce pas ? Hitler lui-même était un grand admirateur de l'Église catholique dans sa structure. Il avait modelé son système, finalement, sur le modèle catholique. Les SS, par exemple, étaient une réplique nazie des jésuites. Et dans les écoles de formation des officiers SS, on étudiait par exemple les exercices spirituels d'Ignace de Loyola, donc le fondateur des jésuites, ce qui montre bien en quelle estime on tenait ces gens-là. On a vu que le Vatican avait conclu un accord avec Berlin autorisant les missionnaires catholiques à intervenir sur les territoires russes conquis, et aussi dans les pays baltes, où les jésuites étaient intervenus d'une manière extrêmement importante pour éliminer l'influence et des luthériens et des orthodoxes. Ils considéraient les pays slaves comme leur chasse gardée, et au Vatican, en 1929, un collège spécial avait été fondé pour l'évangélisation, justement, des slaves. Par exemple, en 1942, à Noël de 1942, Pie XII avait fait un appel vibrant pour une nouvelle croisade contre la Russie. Il avait dit carrément, ça c'est des choses aussi que les catholiques ne peuvent pas nier. Alors donc, en 1945, tous les espoirs que l'Église catholique avait pu nourrir s'effondrent, et l'Église catholique fait un virage à 180 degrés, voyant que les choses ne vont pas dans le sens qu'elle avait espéré. Et c'est le tribunal de Nuremberg, donc le châtiment des criminels de guerre nazis. On a vu comment Pie XII avait demandé la clémence pour certains accusés de Nuremberg, notamment pour Franz von Papen, qui était un catholique convaincu, et qui sera acquitté malgré l'opposition russe. Les Russes s'opposaient à cet acquittement, mais finalement, elle a été obtenue grâce à l'appui du Vatican. Nous avons évoqué tout à l'heure les réseaux mis en place par le Vatican pour permettre l'évasion d'un certain nombre de criminels nazis qui ont été recherchés, notamment de Martin Bormann, qui s'est fait moine dans un couvent de Rome, n'est-ce pas ? Le chef des milices, de certain nombre de milices en France aussi, ont échappé grâce au Vatican. Et la protection du Vatican s'est étendue jusqu'aux criminels de guerre japonais. Ante Pavelic a fui en Argentine grâce au Vatican. Et le pape avait créé pour cela une commission pontificale spéciale pour venir en aide justement à ces réfugiés. Et on a débloqué aussi des fonds spéciaux au Vatican pour ce faire. Et même, n'est-ce pas, pendant la guerre, un certain nombre de ces fonds avaient été investis dans des industries de guerre. Au lendemain de la guerre, le Vatican va reprendre une politique d'unification de l'Europe en s'appuyant sur des catholiques qui sont au pouvoir dans différents pays, les partis centristes traditionnellement catholiques. En France, c'est le MRP, Mouvement Républicain Populaire, qui est animé par un catholique convaincu qui est Robert Schuman. En Allemagne, qui est amputé donc de toute sa partie orientale en majorité protestante, dans la République fédérale allemande qui est créée donc au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le catholicisme constitue la majorité de la population et est élu donc chancelier un modéré catholique, Konrad Adenauer. Et il y a donc bientôt une convergence de vues entre, finalement, si De Gaulle, qui après la guerre est le chef du gouvernement provisoire de la France, qui lui aussi est un catholique convaincu, et qui a donc Robert Schuman comme ministre des Finances. Et Robert Schuman et Konrad Adenauer jettent les bases d'une unification de l'Europe. Une unification de l'Europe pour mettre fin donc au conflit traditionnel entre la France et l'Allemagne, mais aussi donc pour donner corps à ce grand rêve qui était celui du Vatican et qu'il espérait concrétiser lors des deux guerres mondiales, celui d'une Europe unie qui serait donc majoritairement catholique. Il est tout à fait intéressant de noter que Konrad Adenauer et Robert Schuman ont choisi le drapeau de l'Europe, qui est encore aujourd'hui le drapeau officiel, et qui est donc une couronne de 12 étoiles sur un fond bleu. Peu de gens savent exactement ce que représente ce drapeau. C'est tout simplement le manteau de la Vierge. Le manteau bleu de la Vierge, tel que, en tout cas selon l'interprétation qu'en donne le catholicisme, elle apparaît dans le 12e chapitre du livre de l'Apocalypse, la femme couronnée d'étoiles avec le soleil et la lune, n'est-ce pas, qui donne naissance au fils mâle. Dans cette femme, la théologie catholique traditionnelle voit la Vierge Marie, la reine de l'univers et la reine de l'Europe. Et Adenauer et Schuman dédient l'Europe nouvelle qu'ils créent à la Vierge. C'est pour moi quelque chose d'absolument abominable, d'abord parce que, évidemment, pour moi, la Vierge n'est ni la reine du ciel, ni la reine de l'Europe, mais aussi parce que là, c'est véritablement la théologie de la substitution, car la vision de l'Apocalypse 12 n'est autre chose que la vision d'Israël. Les 12 tribus d'Israël, les 12 étoiles, ce sont les 12 tribus. Donc ici, l'Europe usurpe à nouveau, comme elle a toujours cherché à le faire, la place d'Israël au travers justement du catholicisme. C'est la vieille théologie de la substitution traduite sur le plan politique et dont on voit aujourd'hui encore les effets pervers, n'est-ce pas, puisque à nouveau, n'est-ce pas, l'Europe cherche à écraser, éliminer l'État d'Israël qui est le rival, n'est-ce pas, alors que le peuple élu, c'est le peuple européen, quoi. C'est comme ça qu'on voit les choses. Et dans le même temps, Pie XII essaye d'étendre, de profiter justement de l'après-guerre pour étendre l'influence catholique partout où il le peut, et notamment en Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, où un certain nombre de missions américaines, notamment, essayent d'évangéliser donc cette région. Et le pape n'hésite pas à demander à des pays sud-américains profondément marqués par le catholicisme d'entamer de véritables persécutions contre les évangéliques. C'est le cas notamment en Colombie, où alors il y a des véritables mises à mort, des chrétiens évangéliques mis à mort pour leur foi par les autorités catholiques, parce que justement ils ont embrassé une religion interdite. En Argentine, la religion catholique est la seule religion officielle autorisée. On a une situation qui n'est pas sans rappeler celle de l'Espagne, franquiste, où sans que les évangéliques soient mis à mort, ils sont inquiétés, emprisonnés, une persécution qui a différents degrés. Il faudra attendre la mort de Pie XII, un des papes les plus autoritaire qui est jamais que l'Église catholique ait jamais connu, en tout cas l'Église catholique moderne, pour que ces persécutions finalement prennent fin lorsque arrivera sur le trône pontifical son successeur, Jean XXIII, qui lui évidemment est heureusement un pape beaucoup plus libéral. Pie XII est un homme aussi qui va utiliser l'excommunication à grand renfort et notamment il va s'en prendre aux prêtres ouvriers. Les prêtres ouvriers sont un mouvement qu'il a lancé lui-même d'ailleurs au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale pour tenter justement de reconquérir les ouvriers passés en majorité au communisme. Et il envoie dans les usines des prêtres qui se font embaucher comme de simples ouvriers et qui ont pour mission d'évangéliser en quelque sorte le milieu populaire, le milieu ouvrier. C'est un échec absolument retentissant, parce que ce ne sont pas ces prêtres-là qui évangélisent les ouvriers, ce sont les ouvriers qui évangélisent les prêtres, si j'ose dire, et qui les font devenir marxistes et communistes. Beaucoup défroquent, beaucoup militent ensuite dans les partis qu'ils étaient en principe censés combattre, tant et si bien que Pie XII est obligé de mettre fin, en catastrophe, à l'expérience des prêtres ouvriers. Ceux qui refusent de rentrer dans le rang sont tout simplement excommuniés. Dans le même temps, à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'en 1958, date de sa mort, Pie XII lâche la brise aux modernistes. Au travers de la bulle Divino Affluente Spiritu, l'interprétation moderniste qui avait été pourtant condamnée en 1907 par la bulle Pascendi, n'est-ce pas ? Ou Pascendi, qu'on dit, je crois, en italien. Pascendi, comment est-ce qu'on dit ? Ouais. Cette exégèse est autorisée. Donc il y a une véritable entrée du modernisme dans les facultés de théologie catholique, n'est-ce pas ? À commencer par Rome, qui va avoir des effets néfastes et pervers. D'ailleurs, entre parenthèses, quand on dit que l'Église catholique ne change jamais, on voit comment l'espace de à peine 50 ans, disons, il y a eu un virage à 180 degrés, donc il peut y en avoir d'autres, c'est évident. En 1950, Pie XII publie le dogme de l'Ascension, à savoir que Marie donc est montée au ciel après sa mort dans son corps, pas seulement dans son esprit, mais également dans son corps. Et par conséquent, elle est proclamée donc reine du ciel, comme l'avait bien vu Adenauer et Maurice Schumann. Un petit peu plus tard, sous son pontificat, le pape Paul VI proclamera Marie co-rédemptrice. Ça veut dire qu'elle a une part importante dans la rédemption, ayant donné naissance à Jésus. Elle est qualifiée de co-rédemptrice, c'est-à-dire que là, avec ces deux papes-là, et donc dans ce XXe siècle, la mariologie atteint son sommet. On ne voit pas très bien comment on pourrait aller plus loin dans le domaine de la mariologie. Dans le même temps, donc Marie est proclamée mère de l'Église, et par conséquent, là, on atteint le pire de ce que les protestants peuvent redouter de la part de l'Église catholique. On est vraiment dans une situation tout à fait figée, tout à fait réactionnaire de l'Église catholique à la fin du pontificat de Pie XII. Pie XII, pour faire bonne mesure, prétend, peu de temps avant sa mort, avoir eu une apparition du Christ, n'est-ce pas, qui est venu lui dire qu'il était sur la bonne voie et que, par conséquent, tous les catholiques devaient se plier, et les non-catholiques, si possible aussi, à ce qu'il avait ainsi décidé. Bon, on sait aujourd'hui que cette vision était tout à fait factice, mais enfin, à cette époque-là, on en a fait grand cas, et bon, ça a fait le tour du monde entier. Pie XII décède en 1958, et lui succède alors un prélat âgé de 78 ans, Jean XXIII, qui prend donc le nonce. Il a été nonce apostolique dans une grande partie de sa carrière. Pendant la guerre, il était nonce apostolique à Ankara, où il a contribué à sauver beaucoup de juifs. Il est ensuite devenu nonce apostolique à Paris. Nonce apostolique, c'est ambassadeur du Vatican. L'État du Vatican a donc des ambassadeurs comme n'importe quelle puissance, comme la France, comme les États-Unis, comme n'importe quoi, et on les appelle des nonces apostoliques. Ils ont le statut de diplomatique d'un ambassadeur quelconque. Et donc, Roncalli, cardinal Roncalli, était donc nonce apostolique à Paris avant de devenir patriarche de Venise, donc évêque de Venise, ou l'archevêque de Venise. Et c'est en 1958 que de cette position de patriarche de Venise, il est nommé pape sous le nom de Jean XXIII. Jean XXIII, le bon pape Jean, comme on l'appelait, le pape débonnaire, que l'on pensait être un pape de transition. Le conclave avait voulu un pape de transition pour pouvoir respirer après le pontificat, le long pontificat et en même temps très particulier de Pie XII. On ne voyait pas très bien clair dans la situation actuelle, et on voulait se donner un peu d'air, un peu de recul, n'est-ce pas, pour voir quelle orientation l'Église catholique devait prendre dans cette deuxième partie du XXe siècle. Or, Jean XXIII, le bon pape Jean, s'est révélé tout autre chose qu'un pape de transition. En effet, peu de temps après son intronisation, il a déclaré convoquer un concile œcuménique. Le but étant de moderniser l'Église. Le but du concile était d'être un concile pastoral et non pas doctrinal. C'est quelque chose qui a surpris tout le monde, les catholiques eux-mêmes. Et le but de Jean XXIII était de trancher, justement, à fond avec la politique de son prédécesseur. Il avait bien compris que l'Église catholique était sortait lourdement hypothéqué de la première moitié du siècle et de son rôle dans les deux guerres mondiales, et que le seul moyen de sauver son prestige et par conséquent son témoignage dans la société moderne était de l'amener à effectuer un virage à 180 degrés. Et on lui prête cette parole, vous savez, quand les cardinaux auxquels il a fait part de son désir de faire un concile œcuménique, il dit « Mais Saint-Père, qu'est-ce que vous espérez ?» Il a ouvert une fenêtre, il a dit « De l'air ». Tout était dit dans cette parole. Et, par conséquent, le concile a été convoqué et il s'est déroulé de 1962 à 1965. Il était donc rassemblé au Vatican, d'où le nom de Concile de Vatican II qu'on lui donne, par opposition au Concile de Vatican I qui s'est tenu en 1870, à la veille de la guerre franco-prussienne, et qui a donc, lui, été un concile doctrinal, puisqu'il a rappelé, ou plutôt il a énoncé le dogme de l'infaillibilité pontificale. Là, il était évident, il était clair que le concile ne devait être qu'un concile pastoral, ça veut dire sur la manière de se comporter, et non pas doctrinal. 2000 évêques à peu près venus du monde entier s'y sont rassemblés, et c'était véritablement pour la première fois un concile œcuménique, dans ce sens qu'il y avait effectivement des évêques qui venaient du monde entier. C'était véritablement le premier du genre, n'est-ce pas ? Même celui de Vatican Ier n'était pas véritablement un concile œcuménique dans ce domaine-là, parce qu'on était encore en pleine période de l'expansion missionnaire. Et très vite, deux tendances se sont affrontées dans le concile. Ce qu'on a commencé à appeler à cette époque-là les intégristes, menés par la curie romaine et le vieux cardinal Ottaviani en particulier, qui était le doyen du sacré collège de cette période-là, et qui était hostile à toute réforme, qui était nommée, qui avait été mis en place par Pie XII et qui était à fond dans la ligne de Pie XII, et puis les modernistes, partisans du renouveau de l'Église catholique. Dès le départ, néanmoins, les choses étaient verrouillées. Et pour pouvoir participer au débat, participe au concile, il fallait souscrire à la confession de foi du concile de Trente, n'est-ce pas ? Reconnaître la primauté du pape sur les évêques, n'est-ce pas ? Et donc son infaillibilité. Ça veut dire que le pape jugeait en dernier ressort et il pouvait autoritairement, de sa propre initiative, défaire ce que les pères conciliaires pouvaient élaborer. Alors, ce qui était en cause, il y avait plusieurs sujets qui devaient être débattus. Tout d'abord, il y avait le renouveau liturgique. Et notamment le fait qu'on constatait que la liturgie qui était héritée donc de Pie V, c'est ça ? Je crois, quelque chose comme ça. Revue par Pie XI entre-temps, mais enfin bon, grosso modo celle-là, qui est encore d'ailleurs celle des intégristes aujourd'hui, qui était en latin, langue qui n'était plus guère comprise, et on pensait avec raison qu'une messe en latin au Gabon ou en Thaïlande, c'était un peu drôle quand même, quoi. Donc l'idée était en quelque sorte de protestantiser, si j'ose dire, la liturgie catholique, dans le sens de faire en sorte que la messe soit dite dans la langue du pays, la langue vulgaire, ce qui a posé alors d'énormes problèmes pour justement les intégristes. Autre point, n'est-ce pas, la place de la Bible, le renouveau biblique. Ça déjà depuis, on verra quand on va parler de l'œcuménisme, que déjà il avait été question depuis longtemps de redonner à la Bible une place qu'elle avait perdue justement dans l'Église catholique. Là aussi, il y a eu une certaine protestantisation de l'Église catholique dans ce domaine. Alors, ce renouveau biblique, qui allait de pair avec le renouveau liturgique, était aussi lié avec justement le modernisme, et notamment l'interprétation moderniste de l'écriture libérale, si vous voulez, qui avait déjà été autorisée par Pie XII, on l'a vu un peu avant, dans les années 50, disons. Par conséquent, il s'agissait d'aller plus loin dans ce domaine, et par conséquent, d'employer les méthodes historico-critiques, les théories de Wellhausen, etc. Et ça a été l'époque de gloire de la Bible de Jérusalem, ainsi nommée parce qu'elle était donc traduite par les dominicains de l'école biblique de Jérusalem, et qui utilisait justement toutes les dernières découvertes justement des protestants dans ce domaine-là. Et dans ce domaine, l'œcuménisme a rendu à l'Église catholique un très très mauvais service. Autre point alors extrêmement délicat, ça a été la question de la liberté religieuse. Autant Pie XII était hostile à la liberté religieuse, seule la vérité avait le droit d'être exposée, l'erreur n'avait aucun droit, d'où les appels à la persécution des protestants en Colombie, en Espagne, au Portugal, en Italie aussi, bien sûr, sous Pie XII. Et puis, autant Jean XXIII, au contraire, était pour la liberté religieuse. Il avait montré quand il était nonce apostolique à Ankara. Et il a donc milité à fond pour l'imposition de la liberté religieuse, en se basant d'ailleurs, ce qui est intéressant, plus sur le droit naturel que sur l'Évangile. Ça a été le grand tort de Vatican II, de se baser essentiellement sur ce qu'on appelait la loi naturelle. Dans la liberté religieuse, il y avait un autre aspect aussi, c'était l'œcuménisme. L'œcuménisme qui était à l'ordre du jour déjà depuis un certain temps, y compris au sein de l'Église catholique, et vis-à-vis duquel Pie XII, évidemment, était très réservé, mais auquel Jean XXIII était, lui, particulièrement favorable. Et il a donc donné une orientation résolument œcuménique au Concile lui-même, en faisant en sorte que des représentants de toutes les Églises protestantes soient invités en tant qu'observateurs au Concile de Vatican II, et ils avaient le droit de participer aux commissions qui ensuite éclataient après les plénières. Bien entendu, il n'a pas le droit d'intervenir dans les plénières, mais ils avaient le droit d'intervenir dans les commissions. Et notamment, beaucoup de schémas de Vatican II ont été influencés justement par l'intervention de délégués protestants. On en tenait compte, et notamment le responsable de la commission œcuménique était un homme très ouvert, un cardinal allemand qui s'appelle le cardinal Béa, qui a été nommé donc secrétaire pour l'unité des chrétiens, secrétaire catholique pour l'unité des chrétiens. Si bien que un nouveau code de droit canonique aussi devait avoir lieu. Bref, il y avait beaucoup de travail sur la planche. Et puis, enfin, dernier point, justement, le problème des relations avec les Juifs a été à l'ordre du jour, à la demande de Jean XXIII lui-même, qui lui avait pris position à fond contre les Juifs. Et notamment, la première année de son pontificat, lors de la messe du Vendredi Saint, ou du Jeudi Saint, je crois, plus exactement. En tout cas, il y a dans des liturgies du Vendredi, il y avait à cette époque-là du Vendredi Saint ou du Jeudi Saint, un moment où l'on priait pour différentes catégories de gens, et un moment où l'officiant disait « Prions mes frères pour les perfides juifs, perfidis judaïs ». Et chose aussi tout à fait éloquente, lorsque l'on priait pour les Juifs, on ne s'agenouillait pas. Pour toutes les autres demandes de prière, on s'agenouillait. Quand on priait pour les perfides juifs, on ne s'agenouillait pas. Détail qui n'avait pas échappé à Jules Isaac, historien français, juif, d'origine juive, n'est-ce pas, qui était l'auteur de manuels d'histoire, Malé Isaac, qui a été utilisé à cette période-là par tous les potages depuis le CP jusqu'à la terminale, n'est-ce pas? Le Malé Isaac, moi j'ai eu ça aussi quand j'étais à l'école. Et Jules Isaac, qui avait perdu sa femme et sa fille dans la Shoah, et qui, après la guerre, est sorti absolument traumatisé de la Shoah, et en tant qu'historien, a fait des recherches sur les origines de l'antisémitisme et a mis en évidence notamment les racines chrétiennes de l'antisémitisme. Ça aussi, ça a été évidemment un traumatisme terrible pour l'Occident de voir que l'antisémitisme avait des racines chrétiennes. Il a écrit cela dans un livre de combat qui est un cri du cœur, bon, qui n'est pas objectif, mais qui est très intéressant parce qu'il est un cri du cœur et qui s'intitule « Jésus et Israël », dans lequel il dit que Jésus n'aurait pas été d'accord en quelque sorte avec ce qu'est devenu le christianisme aujourd'hui, c'est en gros sa thèse, n'est-ce pas ? Et il dédie donc, la dédicace particulièrement mouvante, n'est-ce pas ? Il écrit « Je dédie ce livre à ma femme et à ma fille, assassinées par les nazis d'Hitler, tout simplement parce qu'elle s'appelait Isaac. » Et donc, Jean XXIII, quand il était encore nonce apostolique, a lu ce livre, et il a donc invité Jules Isaac, qui avait créé à ce moment-là les amitiés judéo-chrétiennes, pour essayer justement de combattre cela, et il lui a promis qu'au Concile Vatican II, il allait faire quelque chose pour Israël. Et l'année de son pontificat, quand donc a eu lieu la fameuse messe, et quand l'officiant s'est apprêté à dire « Prions mes frères pour les perfides juifs », n'est-ce pas ? Il a arrêté l'officiant, il a dit « On ne lit plus ça, c'est terminé, c'est supprimé du rituel romain ». Alors ça fait un petit scandale, mais c'était la suite de l'intervention de Jules Isaac. Et le Vatican avait expliqué jusqu'alors que perfide, en latin, ça n'avait pas la même signification qu'en français. Ça voulait dire simplement qui n'ont pas la foi, les juifs qui n'ont pas la foi. Alors Jules Isaac a dit, mais alors pourquoi à ce moment-là, vous agenouillez pas? Et Jean XXIII lui a dit, non, ça c'est inacceptable. Et depuis ce temps, n'est-ce pas, on ne lit plus cette prière pour les perfides juifs pendant l'office du Vendredi Saint. Bon, alors donc, il a été décidé de créer un secrétariat spécial pour les relations avec le judaïsme. Et il y a eu un secrétariat pour les relations avec les religions non chrétiennes, mais un secrétariat particulier pour les relations avec les juifs, dans ce sens que le judaïsme n'était pas considéré comme une religion étrangère, une religion non chrétienne, mais quelque chose à mi-chemin, quelque sorte, quoi. Malheureusement, il y a eu alors là des pressions formidables qui ont été exercées sur les pères conciliaires, notamment par les évêques des diocèses des pays arabes, qui ont dit « oui, mais alors nous, ils ont réagi comme des dhimmis, quoi. Ça va retomber sur nous, les arabes vont nous persécuter, etc. » Si bien que le schéma sur les juifs a été très édulcoré, et à la grande déception de Jules Isaac et de tous les juifs qui participaient, donc aussi qui suivaient en tout cas les travaux de Vatican II. Donc voilà en gros, si vous voulez, comment s'est passé le concile. Jean XXIII est mort en 1963 en plein concile. Il était âgé, évidemment. Et on a élu donc dans la foulée le cardinal archevêque de Milan, cardinal Montini, Jean-Baptiste Montini, qui était réputé comme étant un évêque de gauche, l'évêque rouge, comme on disait. Milan était une ville très industrielle. Et de fait, il était considéré comme un pape progressiste, ce qu'il a été. Et il a donc déclaré qu'il allait poursuivre à fond l'œuvre de Jean XXIII, ce qui a été le cas. Et l'essentiel du pontificat de Paul VI, le long pontificat de Paul VI, puisqu'il a pris fin en 1976, a été essentiellement consacré à la mise en place... 78, tu as raison. Exact. Ce pontificat a été surtout consacré à la mise en place de Vatican II. Vatican II qui a bouleversé les choses en profondeur dans l'Église catholique, dans ce sens qu'il y a eu de l'herbe, il y a eu même plus que de l'air, il y a eu des courants d'air et une véritable tempête qui a secoué l'Église catholique à partir de la fin du Concile. Donc en 1965, le Concile a pris fin. Et qui aussi ont contribué à la restauration de nombreux monastères après la Deuxième Guerre mondiale. Et l'idée était que par l'intermédiaire de ces intellectuels, il allait y avoir une reconquête de la culture par l'Église. Mais la période d'après Vatican II a été en fait une période d'affaiblissement de la foi terrible. Et il y a eu, par exemple, tous les mouvements comme l'Action catholique qui étaient les fers de lance de l'Église catholique, les jésuites aussi, n'est-ce pas, sont passés par une crise spirituelle terrible, n'est-ce pas, parce qu'ils étaient considérés comme réactionnaires, ce qu'ils étaient d'ailleurs, et par conséquent ont été absolument marginalisés. Et finalement, Paul VI a dû reconnaître que le monde revenait au paganisme, que le mystère d'iniquité n'a d'égal à aucune autre période de l'histoire. Oui, c'est ça, tu as raison. Paul VI est mort en 1978. Et là, donc, en fait, de réveil de l'Église, ça a été l'anarchie qui s'est installée. Sous prétexte de comment pourrait-on dire, de réforme liturgique, on a fait n'importe quoi. Les prêtres ont jeté la soutane aux orties, s'habillaient en blue jean et en polo délavé avec des cheveux comme ça dans le dos, etc. Singer les hippies. Il y a eu alors quelque chose de tout à fait positif, ça a été la mise au rencard des saints et une terrible relativisation de la piété mariale et de tout le culte des saints, ça c'était extrêmement positif. Mais en même temps, il y a eu alors là une pénétration alors des mouvements politiques de gauche au sein de l'Église catholique, y compris de très nombreux prêtres qui défroquaient. Certains se mariaient et perdaient la foi grâce justement au modernisme dont on parlait qui a envahi les séminaires, tant et si bien que le nombre des séminaristes s'est mis à fondre comme beurre au soleil. Et à la fin du pontificat de Paul VI, l'Église catholique s'est trouvée devant une formidable hémorragie de vocation. Et le renouvellement des prêtres n'était plus assuré. Il a fallu regrouper des paroisses pour en faire des grandes paroisses où un seul prêtre était obligé de tout faire. Alors il a fallu embaucher des laïcs, d'où la revalorisation du diaconat, donc d'un certain nombre de laïcs mariés qui pouvaient devenir diacres et donc seconder les prêtres. Ça a permis une petite bouffée d'oxygène, mais enfin, ça n'a pas résolu le problème. Il y a eu une véritable dérive, alors aussi au point de vue des doctrines. Même des prêtres ne croyaient plus aux dogmes essentiels de la foi, la naissance virginale de Jésus, la résurrection, et continuaient malgré tout à être prêtres, etc. Enfin bref, c'était à la fin du pontificat de Paul VI, c'était un véritable désastre en ce qui concerne l'Église catholique. Pourquoi ? Parce que tout simplement, Jean XXIII et Paul VI avaient fait une erreur de calcul énorme. C'est de s'imaginer qu'avec des réformettes, parce que finalement c'était en fin de compte des réformettes, ils allaient pouvoir justement donner à l'Église un visage beaucoup plus attractif. Et en fait, à partir du moment où ils donnaient la possibilité à leurs gens de réfléchir un peu par eux-mêmes, de mettre en doute, parce que c'était ça, l'Église catholique tenait par son caractère immuable, ce qu'avait bien compris Pie XII. C'est pas son caractère fort, elle donnait l'impression d'être une structure forte, ce qui avait tellement impressionné Hitler d'ailleurs. À partir du moment où elle s'ouvrait, où elle perdait cette assurance en quelque sorte qui était la sienne, eh bien tous les doutes s'introduisaient en son sein et par conséquent la bouleversaient en profondeur. C'est bien qu'à la mort de Paul VI en 1978, le sacré collège, le conclave, donc, c'est-à-dire le collège des cardinaux qui se rassemble pour élire le pape, et qui se faisant donc, en choisissant un des leurs, donne une orientation politique, lui donne un mandat en quelque sorte, n'est-ce pas, a décidé de revenir et d'élire un pape conservateur, plus conservateur. Alors il ne s'agissait pas évidemment de revenir, d'élire un nouveau Pie XII, on savait bien que c'était impossible de revenir à l'Église catholique telle que Pie XII l'avait laissée à la fin de son pontificat, mais de revenir sur les excès de Paul VI en particulier. Paul VI qui était un homme finalement qui n'avait pas beaucoup d'autorité, à l'inverse de Pie XII, n'est-ce pas, et qui avait laissé filer aussi beaucoup de choses. Et c'est ainsi que a été élu, comment s'appelait celui-là, Luciani, le cardinal Luciani, qui était le cardinal de... De quelle ville il était ? C'était un Italien. Non, c'est Venise ? Peut-être bien. C'est bien, c'est possible. Un des successeurs de Roncalli, oui, c'est bien possible. Et qui était réputé, lui, pour étendre un homme, un prélat conservateur. Et notamment, il avait eu beaucoup de mal à accepter à Vatican II le schéma sur la liberté religieuse. Donc, c'était un coup de barre à droite terrible qui était donné en élisant ce cardinal Luciani, qui était donc aussi un homme qui avait le désir de ramener l'Église dans des voies beaucoup plus traditionnelles. Il est entré au Vatican avec le désir de faire le ménage. Il a trouvé là-bas des écuries d'Augias, notamment ça s'était pas mal dégradé depuis Paul VI. Surtout que les dernières années de Paul VI n'avaient pas été tellement glorieuses, il était malade, il laissait les choses aller, beaucoup entre les mains des cardinaux qui prenaient les choses en main, notamment le doyen du Sacré Collège, c'est-à-dire le Premier ministre, si vous voulez, de l'État du Vatican, qui était un prélat français, cardinal, comment il s'appelait déjà, j'ai oublié son nom, Tisserand, quelque chose comme ça, enfin peu importe. Et donc il a trouvé notamment des malversations financières. Il y avait un prélat américain qui faisait office de ministre des Finances, qui s'appelait l'évêque Marcinkus, qui gérait la fameuse banque du Saint-Esprit, et qui l'a géré avec des méthodes dignes de la mafia. Des sommes importantes étaient investies dans des trafics d'armes, dans des commerces d'armes, dans des commerces de drogue, de traite de blanche et de choses pareilles. L'argent ensuite était blanchi dans des paradis fiscaux aux Bahamas et ailleurs, et ensuite était réinjecté dans les circuits du Vatican. Il y avait aussi de véritables accointances avec des mafias, des loges maçonniques telles la loge P2, la banque Ambriano qui était une banque totalement corrompue, la banque de la mafia. Et ce Marcinkus avait essayé de faire en sorte d'écouler des faux titres par l'intermédiaire justement de cette banque Ambriano et de la mafia. On trouvait un certain nombre de gens qui travaillaient dans ces officines-là qui étaient suicidés. On retrouvait pendus au pont de Rome, par exemple, des choses comme ça, soi-disant, ils s'étaient suicidés, en fait, ça avait tout l'air de crimes crapuleux, etc. Bon, Luciani, qui avait pris le nom de Jean-Paul II, ça veut dire qu'il montrait son programme, ça veut dire qu'il allait continuer sur la voie de ses devanciers, ce qui était une manière élégante de dire qu'il allait évidemment prendre le contre-pied de ce qu'ils avaient fait, mais enfin tout en donnant l'impression qu'il continuait quand même, parce qu'on avait eu très peur quand il avait été élu, on savait que c'était un prélat conservateur, alors les catholiques progressistes s'inquiétaient de savoir si on n'allait pas revenir en arrière avec ce pape-là. Alors, il a voulu les rassurer en disant qu'il allait continuer sur ses devanciers en prenant le titre de Jean-Paul Ier. Et dès qu'il a été en poste, il a voulu nettoyer les écuries d'Augias, notamment les finances du Vatican, assainir les finances du Vatican. Il a convoqué donc le fameux cardinal qui était doyen du Sacré Collège en disant qu'il était décidé à s'attaquer à ce dossier. 8 jours après, il était mort. On le retrouvait mort, soi-disant parce qu'il avait pris un excès de digitaline, il prenait quelques gouttes de digitaline parce qu'il avait des problèmes cardiaques, enfin d'un médicament à base de digitaline. Alors il devait en prendre, je ne sais pas, 5 gouttes, il en avait pris 20 ou 25, on l'a retrouvé mort le lendemain matin. Il a été immédiatement embaumé avant qu'on ait pu faire la moindre analyse pour déterminer les causes exactes de son décès. Quand les médecins sont arrivés le matin pour voir un petit peu ce qu'il en était, il était déjà embaumé, etc. Donc il était impossible de faire la moindre analyse. Et vous savez comment le journaliste anglais Gallup est arrivé à la conclusion que Jean-Paul Ier avait été assassiné justement parce qu'il cherchait à mettre de l'ordre dans les affaires internes du Vatican. Un second conclave donc a eu lieu dans les temps qui ont suivi, puisque le pauvre Jean-Paul Ier n'a été que quelques mois en poste. Et donc, c'est pour la première fois, un jeune prélat polonais, âgé de 56 ans à l'époque, Karol Wojtyła, qui était primat de Pologne, qui a été élu pape sous le nom de Jean-Paul II. Karol Wojtyła était donc archevêque de Cracovie, primat de Pologne, et il avait été élu pour deux raisons. La première, justement, parce qu'il était à la fois conservateur, théologiquement, et ouvert, jeune, sportif, ancien acteur de théâtre, donc ayant la communication facile, et il avait tout le profil du pape moderne auquel rêvait justement le Sacré Collège. Il était ensuite polonais, ça veut dire qu'il était primat de la seule nation catholique dans laquelle les choses marchaient bien. L'Église catholique était à l'époque en plein essor et elle était notamment engagée dans un bras de fer terrible avec le communisme. D'ailleurs, c'était ce bras de fer qui lui donnait son audience et son aura, parce qu'elle représentait l'opposition au pouvoir communisme qui était abhorré et haï justement en Pologne. Tant et si bien que, alors que partout ailleurs, en Europe, les églises se vidaient, comme conséquence de Vatican II, les églises de Pologne étaient pleines et regorgées de monde. Et par conséquent, le Sacré Collège demandait à Jean-Paul II d'étendre au monde entier les méthodes qu'il avait employées pour remplir les églises de Pologne. Voilà en fait quelle était sa mission. Et c'était évidemment magnifique de voir ça sur le papier, mais en fait c'était autre chose de le réaliser ensuite à l'échelon du monde entier. Peut-être qu'on verra, si vous voulez, le pontificat de Jean-Paul II la prochaine fois.